Chapitre 13. Secret. Leur fuite les avait entraînés vers le nord, dans la mauvaise direction pour partage. Le jour déclinait quand Parangon rattrapa les autres. Vivacia faisait route à bonne allure en tête de leur groupe de vaisseaux. Yémin avait pris le commandement de la petite force pirate. Althea était fière de lui. Elle trouvait bien dommage que son père ne l'ait jamais considéré avec les yeux de Kénith. Aucun de ceux qui avaient jamais aimé Kyle Havre ne serait obligé de voir ce qu'on lui avait fait. En silence, Ambre avait aidé son ami à faire glisser le corps à la mer. Althea avait elle-même épongé le sang sur le pont de Parangon que le bois sorcier avait refusé d'absorber. Elle ne savait toujours pas ce qu'elle dirait à Malta ou à Kefria. Elle savait ce qu'elle ne leur dirait pas. Tous ses affreux secrets lui soulevaient, lui gonflaient le cœur. Elle leva la tête et examina les navires d'un œil critique. Vivacia ouvrait la route, naviguant comme seul les Vivnef en avaient le secret. La Marietta, le petit vaisseau bien voilé de Sorcor, s'efforçait de suivre l'allure. Le pauvre bouffon, mal en point, traînait derrière, vaille que vaille. En dernier venait Parangon. Althea sentait qu'il pleurait toujours le serpent. Kénith faisait partie du navire à présent. Et pourtant elle ne pouvait renier le lien qui l'unissait à Parangon. Un frémissement, presque un frisson, la parcourut. Elle gagna l'arrière jusqu'à la barre à la recherche de Brachen. Elle n'était pas encore prête à rendre visite à la figure de proue. Elle se donnait l'excuse qu'Eta était sur le gaillard d'avant et désirait sans aucun doute rester seule. Alors qu'elle traversait le pont, Ambre déboucha d'un panneau de cale chargé d'une marmite de ragoût. L'odeur donna la nausée à Althea. Elle ne se souvenait plus de quand datait son dernier repas. Semoy était au timon. Il l'accueillit avec un grand sourire et un clin d'œil.
« Je savais que je vous récupérerais !»
s'exclama-t-il. Elle lui envoya une bourrade sur l'épaule en passant, surprise d'être si émue par ses paroles de bienvenue. Sans un mot, Ambre lui tendit son repas. Il lui confia la barre et vint se placer près d'Althea. Entre les bouchées gloutonnes qui l'enfournaient, il secoua la tête vers l'arrière.
« Il n'abandonne pas, hein ?»
Derrière eux, les vaisseaux jaméliens s'étaient remis de la folie furieuse de Parangon. Certains donnaient la chasse.
« Ils ne prendront pas le risque d'abandonner, » répondit Althea. « Tant que nous tenons le gouverneur, ils ne peuvent pas renoncer. S'il est vivant, tout leur plan se disloque. Ils perdent tout. »
Elle observa d'un œil critique les vaisseaux ennemis.
« Nous avons raison de fuir. Certains ne vont pas passer la nuit. J'ai déjà vu les effets de la bave de serpent. La toile qui paraît solide va bientôt se fendre et tomber en lambeaux. Si on cingle, on peut en semer au moins quelques-uns. Ensuite, quand on sera obligé de se battre, on n'affrontera qu'une force plus réduite.
Mieux encore, on peut espérer les perdre dans la nuit,
intervint Brachen derrière eux.
Et même si ce n'est pas le cas, Yémin détient des otages maintenant.
Une ombre flotta sur son visage.
Je crois qu'il n'hésitera pas à s'en servir.
Des otages ?
Demanda Althea alors que Brachen venait les rejoindre à la lisse d'arrière. Il était tout gris. On aurait dit qu'il avait vieilli de plusieurs années en une seule journée. Il entoura les épaules d'Althea et la serra contre lui. Elle mit un bras autour de sa taille. À son intonation, elle n'aurait su dire s'il approuvait ou s'il était scandalisé.
Au dernier moment, Yémin a récupéré une dizaine de jaméliens. Des nobles à en juger par leur tenue. Ils devraient avoir une certaine valeur comme otage. Mais nous avons raison de fuir tant que nous sommes en position de marchander. Il y a beaucoup d'endroits où se cacher dans les îles, et nous suivons trois navires qui connaissent bien ces eaux. On peut peut-être échapper à la mort aujourd'hui.
Semoy avait fini de manger. Il remercia Ambre et échangea avec elle le plat contre la barre. Il semblait bizarre à Althea qu'un échange aussi banal ait lieu en un jour pareil. La paix lui était étrangère désormais. Brachen s'adressa soudain à Ambre.
« Ornemental ?»
demanda-t-il sur un ton accusateur.
Elle haussa les épaules et il y avait de l'étonnement dans ses yeux étranges. « J'avais fixé la hache. Je n'aurais jamais pensé qu'il soit capable de la tirer et de l'utiliser. »
Elle secoua la tête.
« Plus ça va, plus je le trouve bizarre, ce bois sorcier. »
« Heureusement pour nous qu'il s'en est servi !»
fit remarquer Semoy, approbateur.
« Vous avez vu comme les éclats volaient ?»
Personne n'eut l'air disposé à répondre. Althea s'appuya sur Brachen et constata que l'écart augmentait entre eux et leurs poursuivants. Elle avait tant de choses à lui raconter et absolument rien à dire de plus que ce qu'exprimait ce simple contact. Cliff apparut tout à coup. Il se campa devant Althea et Brachen et secoua la tête d'un air désapprobateur.
« Devant l'équipage et tout le monde ?»
leur reprocha-t-il avec un grand sourire irrespectueux. Althea essaya de lui donner un grand coup pour rire. À sa surprise, Cliff attrapa sa main au vol et la porta avec fermeté à sa joue.
« Chouette de vous voir de retour »
dit-il tout à trac.
« Chouette que vous n'êtes pas mort !»
Il relâcha la main aussi vite qu'il l'avait saisie.
« Comment ça se fait que vous avez rien dit encore à Parangon? Il a une figure toute neuve, savez? Et une hache, et des yeux bleus comme moi. »«
Des yeux bleus ?»
Ambre explosa, incrédule.
« Ils sont censés être brun foncé, presque noirs. »
Elle fit brusquement volte-face et s'éloigna précipitamment.
« Il est bizarre, ce bois sorcier !»
lui rappela Brachen avec suffisance.
« C'est trop tard pour les changer !»
fit remarquer Cliff joyeusement.
« En plus, moi je les aime bien. Ils ont l'air gentils, comme ceux de mer. »
Il se dépêcha de suivre Ambre. Ils étaient presque seuls à présent, si on ne tenait pas compte de ses moyens. Le vieux matelot garda les yeux fixés devant lui par délicatesse quand le capitaine embrassa Althea. Le souvenir de l'agression de Kenith s'imposa fugitivement. Alors elle saisit Brachen et l'embrassa à son tour avec provocation, se refusant à toute comparaison entre ce baiser et l'acte du pirate. Elle ne laisserait pas cette chose s'interposer entre eux. Pourtant, quand elle le lâcha, elle surprit comme une ombre dans ses yeux. Il était trop sensible. Il la dévisagea d'un air interrogateur. Elle haussa imperceptiblement les épaules. Ce n'était pas le moment de lui dire. Mais serait-ce jamais le moment de tout lui révéler? Il croyait sans doute changer de sujet.
Alors, pourquoi n'allons-nous pas voir Parangon pour lui apprendre que tu es à bord, saine et sauve?
Il le sait déjà. C'est grâce à lui si j'y suis.
Elle n'était pas encore remise de sa stupéfaction quand la figure de proue l'avait attrapée et qu'elle avait vu ses yeux. Les yeux de Kenith. Elle avait bien failli se couvrir de honte en hurlant lorsque les grandes mains s'étaient refermées sur elle. Elle savait que Parangon l'avait senti. Il n'avait pas suspendu son geste, mais l'avait déposé promptement dans les bras de Brachen. Elle répondit au silence perplexe de Brachen.
« Je le verrai et lui parlerai quand nous serons tranquilles, Brachen, pas tout de suite. »
Elle fit un début de tentative.
« Kenith fait partie de lui maintenant, non ?»
Il essaya de lui expliquer. « Kenith était un lutte chance. Tu savais ça ?»«
Non. »
dit-elle lentement.
Kenith était issu des marchands de Terrilleville?
Cette idée l'épouvanta. Brachen lui laissa le temps d'assimiler la nouvelle avant d'ajouter
« Nous nous doutions depuis partage que Parangon était le navire légendaire d'Ygrotte. Terrilleville a toujours nié que le pirate avait eu une vive nef, mais c'était vrai. Parangon. Il avait pris Kenith en otage pour asservir le navire.
Par le souffle de ça. Tout concordait maintenant. Elle regroupa tant bien que mal tous les éléments. Alors, Kenit est revenu mourir chez lui, mourir sur son pont, pour ne faire qu'un avec son navire. Un petit frisson d'horreur lui parcourut l'échine.
Rachen acquiesça de la tête en l'observant. Il l'a toujours été, Althea. Je ne crois pas que sa mort sur le pont ait changé Parangon, excepté qu'il a trouvé la paix. Il est enfin lui-même, un être complet. Dragons, Luchance, hommes et petits garçons, et Kenit, ils sont tous confondus en un.
Elle se détourna, mais il lui prit le menton et lui releva le visage.
« Et nous ?» dit-il presque farouchement. « Toi et moi, Ambre et Jack, Cliff, tout ce que nous avons mis en lui en fait partie aussi. Ne te détourne pas de lui maintenant, je t'en prie, ne cesse pas de l'aimer. »
Elle pouvait à peine se concentrer sur ce qu'il disait. Elle avait redouté de raconter le viol à Brachen, mais avait décidé qu'il le fallait. Pourtant, comment était-ce possible sans nuire aux sentiments qu'il portait au navire? Les méandres de ses pensées lui donnaient le vertige.
« Althea ?» demanda Brachen inquiet.
« J'essaierai, »
répondit-elle faiblement. Sans se soucier qu'on la voie, elle l'attira soudain et l'étreignit.
« Tiens-moi, » dit-elle farouchement. « Tiens-moi très, très serré. »
Elle avait promis qu'elle essaierait. Brachen se défendit à grand-peine d'insister. Quelque chose s'était passé à bord de Vivacia, quelque chose qui l'éloignait de lui maintenant. Il posa le menton sur ses cheveux bruns et l'enveloppa dans ses bras. Il pensa avoir deviné. Althea parut sentir ses pensées car elle changea de sujet.
« Ça clapote !»
Elle bougea un peu dans ses bras et il feignit de ne pas remarquer qu'elle séchait des larmes sur sa chemise.
« En effet, j'ai idée qu'un coup de chien se prépare, mais on en a déjà subi. Parangon se comporte bien dans la tempête. »
On pourra d'autant mieux se cacher.
Je crois qu'on les distance.
Ils ont éteint leurs fanaux, ils espèrent nous surprendre dans le noir.
Il faudra d'abord qu'ils nous trouvent.
Ça va être plus difficile pour la Marietta et le bouffon de garder la même allure que les Vivenefs dans le noir.
Ils avancent sans lumière, eux aussi.
Vivacia ne les abandonnera pas. Elle les protégera, quels que soient les risques.
Une conversation banale, un rappel d'évidence. Pour Brachen, cela sautait aux yeux. Elle avait retrouvé la Vivacia et son cœur en même temps. Il ne pouvait le lui reprocher. Vivacia était le navire de sa famille. Kenit mort, elle avait de sérieuses chances de la récupérer. Et à la différence de Parangon, Vivacia n'avait pas absorbé l'âme d'un pirate assassin qui avait causé de grands préjudices à la famille d'Althea. Quand elle était passée sur le Parangon, il s'était illusionné en croyant qu'elle était revenue pour lui. Mais en fait, elle était venue lui communiquer les plans de bataille. En remarquant les plis distraits de son front, il devinait où étaient ses pensées. Elle l'aimait à sa manière. Elle lui donnait ce qu'elle pouvait sans abandonner son navire et sa famille. Il n'avait pas le droit de lui en demander davantage. S'il avait eu encore une famille, peut-être aurait-il lui aussi été tiraillé. Un bref instant, il songea à quitter Parangon pour la suivre. Mais c'était impossible. Personne ne connaissait ce navire comme lui. Personne n'avait autant souffert avec lui. Il ne pouvait rendre Parangon vulnérable à un capitaine qui ne tolérerait peut-être pas ses sautes d'humeur. Et Cliff? Arracherait-il le gamin au navire qu'il aimait? Ou le laisserait-il sur Parangon pour être formé par un maître qui n'agirait peut-être pas au mieux des intérêts du garçon? Et ses Moy ne serait pas lieutenant sous les ordres d'un autre capitaine?
Il redeviendrait un ivrogne fini et perdrait à boire ce qui lui restait de vie.
Non. Il avait beau aimer Althea, il avait des responsabilités. Elle ne respecterait pas un homme qui abandonnerait son navire pour la suivre. C'en était fini pour Brachentrell de se dérober à ses devoirs. Il devait demeurer ici, et le cas échéant, aimer Althea de loin, et quand ils pourraient être réunis. En reconnaissant tout cela, il comprit qu'il avait bel et bien une famille. Etta était appuyée à la lisse, les yeux perdus dans le noir. Parangon sentait son contact, bien que sa présence fût limitée à la chaude pression de ses avant-bras sur le bois sorcier. Sans lien avec elle, il ne pouvait percevoir ses émotions. Elle rompit brusquement le silence.
« Je connais un peu les vives-nefs, par Vivacia. »
Il n'avait rien à répondre, il attendit.
« Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas comment, mais Kenit était de ta famille. Quand il est mort, il est entré en toi ?»
Sa voix se crispa sur les mots maladroits. Il la sentit trembler.
« C'est une façon de parler. »
Sa réponse paraissait trop froide, et il chercha à ajouter quelque chose de plus doux.
« Il a toujours fait partie de moi et moi de lui. Pour de nombreuses raisons, nous avions des liens exceptionnels. Il était très important pour nous deux qu'il revienne à l'heure de sa mort. Je le savais. Je ne crois pas que Kenit l'avait compris jusqu'au dernier moment. »
Elle inspira. D'une voix étranglée, elle demanda
« Alors, tu es Kenit maintenant ?»«
Non, je suis désolé. Kenit fait partie de moi. Il me complète. Mais je suis Parangon irrévocablement. »
C'était bon de faire cette déclaration. Il se douta que pour elle, ces paroles pouvaient être douloureuses à entendre. À sa grande surprise, il éprouva un chagrin sincère d'avoir à la blesser. Il chercha en vain à se rappeler la dernière fois qu'il avait expérimenté pareil sentiment. Était-ce encore un aspect de la plénitude, cette empathie? Il faudrait du temps pour s'y adapter.
« Alors, il a disparu, »
constata-t-elle d'une voix morne. Elle avait peine à respirer.
Mais pourquoi n'as-tu pas pu le guérir comme Vivacia a guéri Emma?
Il réfléchit un moment.
Tu dis qu'elle l'a guéri? Je ne suis pas au courant. Je peux seulement deviner. Elle a fait ce que font les dragons quand ils y sont obligés. Ils brûlent les réserves de leur corps pour accélérer une guérison. Si Vivacia a fait ça pour Yémin, il a eu de la chance d'y survivre. Rares sont les humains qui disposent de ces réserves. Ce n'était certainement pas le cas de Kenit.
Le silence d'Etta se prolongea. La nuit s'épaissit autour d'eux, mais l'obscurité réjouissait sa vue toute neuve. La nuit n'était pas vraiment noire. Il tourna les yeux vers le ciel, vers les nuages qui cachaient puis dévoilaient la lune et les étoiles. La mer brasillait. Sa vue perçante, part de son héritage de dragon, discernait les contours des navires qu'il suivait.
« Tu saurais quelque chose sur lui, Kenit? Si je te demandais quelque chose, tu pourrais me dire la vérité ?»«
Peut-être. »
répondit Parangon en hésitant. Il se tourna pour la regarder. Elle avait retiré les mains de la lisse et jouait fébrilement avec son bracelet.
« Est-ce qu'il m'aimait ?»
La question éclata, douloureuse dans son intensité.
« Est-ce qu'il m'aimait vraiment ? J'ai besoin de savoir. »«
Kenit fait partie de moi, mais je ne suis pas Kenit. »
Parangon débattait furieusement avec lui-même. Elle portait un enfant, l'enfant qu'il avait promis à son navire il y avait si longtemps. Parangon l'eut de chance. Un enfant avait besoin d'être aimé sans réserve.
« Si tu as ces souvenirs, tu connais la vérité, »
insista-t-elle.
« Est-ce qu'il m'aimait ?»«
Oui, il t'aimait. » Il lui donna ce qu'elle avait besoin d'entendre, sans scrupule.
« J'ai les souvenirs de Kenneth, mais je ne suis pas Kenneth. Pourtant, je peux mentir aussi bien que lui. Et pour une meilleure cause. » « Il t'aimait aussi profondément qu'il en a été capable. »
Cela au moins était vrai. « Merci. » Aussi claire et fugace qu'une goutte de pluie, la pensée l'atteignit. Il tâtonna pour en trouver la source, mais ne découvrit rien. La voix lui avait paru singulièrement familière, presque comme si elle venait de Kenneth. Pourtant, c'était à l'extérieur de lui.
« Merci, »
répéta Etta à son insu.
« Tu ne peux pas savoir à quel point je te remercie. De notre part à tous les deux. »
Elle s'éloigna rapidement du gaillard d'avant, le laissant réfléchir sur ce mystère. Devant lui, sur le pont du Bouffon, un fanal s'alluma soudainement. On le tint à l'avant trois fois, il se balança une fois, puis s'éteignit. C'était toujours surprenant d'avoir ainsi accès aux souvenirs de Kenneth. Il lui appartenait de déchiffrer les vieux signaux des pirates. Brashen était appelé sur la Vivacia.
« Il y a intérêt à ce que ce soit important !»
grommela Brashen à Althea, alors qu'ils étaient penchés sur les avirons. Etta et Ambre manœuvraient une deuxième paire. Les rafales de vent plaquaient les cheveux clairsemés d'Ambre sur son visage marbré.
« Je suis sûr que c'est important, »
marmonna Althea. Il souquait dur, luttant contre le vent, l'eau et la nuit pour rattraper le navire de tête. Les quatre vaisseaux s'étaient rapprochés les uns des autres, mais n'avaient pas mouillé, même pour cette réunion. Vivacia les guidait à travers un labyrinthe de petites îles. Certaines apparaissaient abruptes et rocheuses, d'autres ne se voyaient que par le ressac qui se brisait sur une surface déchiquetée. Les navires sinuaient entre les îlots. Brashen devinait qu'à marée basse, cette route serait impraticable. Il espérait que Yémin et Vivacia la connaissaient aussi bien qu'ils en avaient l'air. Il approuvait la décision de mettre autant de distance que possible entre les vaisseaux jaméliens et eux, mais il n'était pas convaincu de la nécessité de quitter son navire pour aller à bord de Vivacia. Althea lui avait affirmé qu'on pouvait faire confiance à Yémin. Mais il se disait qu'il ne connaissait guère l'équipage de la Vivacia, ni les capitaines et matelots des deux autres vaisseaux. Ils avaient été plongés dans une alliance improbable avec les pirates. Il gardait le souvenir encore frais dans sa mémoire d'être enfermé dans la cale d'un navire qui sombrait. Vivacia les recueillit alors qu'une pluie battante s'était mise à tomber. À la lueur d'une lanterne sourde, on les hissa à bord. Les canots de la Marietta et du Bouffon étaient déjà arrivés. Ils étaient les derniers. La méfiance de Brashen augmenta d'un cran. Etta fut la première à prendre pied. Althea allait suivre, mais il l'arrêta d'un geste.
« J'y vais d'abord, » gronda-t-il tout bas. « Au premier signe de trahison, retourne sur Parangon. »
« Je ne crois pas qu'il y ait de crainte à avoir, »
objecta Althea, mais il secoua la tête.
« Je t'ai perdu une fois. Je ne risquerai pas une seconde. »
« Homme sage, »
fit remarquer Ambre à mi-voix alors qu'il saisissait l'échelle de corde mouillée et commençait à grimper. Dès qu'il posa les mains sur la lisse de Vivacia, il fut submergé par une folle émotion. Il fut attendri jusqu'aux larmes. La chaleur de l'accueil se répandit en lui. La joie de Vivacia de le savoir sain et sauf. Il prit le pied sur le pont qu'il n'avait pas foulé depuis le jour de l'éveil de la vive nef.
« Brashen Trelle !»
s'exclama le navire d'une voix de contralto.
Parangon t'a fait du bien. Tu es devenu plus sensible que quand tu arpentais mon pont. Pour la première fois depuis mon éveil, je te souhaite la bienvenue à bord.
Merci, réussit-il à dire.
État n'était nulle part en vue. Yéma se tenait sur le pont sous la pluie battante et lui tendait la main. Le gamin effacé qu'il avait rencontré aux funérailles d'Ephron était planté bien droit devant lui et soutenait son regard. Un profond chagrin avait marqué son visage. Il ne serait jamais un homme imposant, mais homme il était devenu, sans conteste.
« Vous vous souvenez où se trouve la chambre des cartes, je pense ?»
dit-il. Et Brachen se surprit à répondre au sourire familier de la même façon. La ressemblance de Yéma avec Althea était vraiment surnaturelle. Il scruta Althea quand elle monta à bord. Il la vit s'illuminer quand elle posa les mains sur la lisse. Malta vint à sa rencontre et elles engagèrent aussitôt la conversation en se hâtant de rentrer à l'intérieur. Ambre semblait moins touchée par son premier contact avec la vive nef. Ce fut lorsqu'elle posa les yeux sur Yéma que son visage se relâcha sous la stupéfaction.
« Le petit esclave à 9 doigts !»
laissa-t-elle échapper. Yéma porta une main à sa joue, puis la baissa avec embarras. Il adressa à Brachen un regard gêné, tandis qu'Ambre le dévisageait. Jack surgit alors de l'obscurité pour saisir son ami dans une étreinte vigoureuse.
« Ouah ! Tu as une sale tête pire que la mienne !»
s'exclama-t-elle alors que Yéma se détournait en hâte. Brachen éprouvait des émotions mêlées en marchant sur le pont autrefois si familier. « Kenny t'avait bien entretenu le navire, remarqua-t-il. Il avait été un bon capitaine. » Puis il secoua la tête, ayant du mal à croire qu'une telle pensée lui soit venue. Il y avait beaucoup de monde dans la chambre des cartes. Etta était là, de même que le fiancé de Malta. Rain paraissait déterminé à ne pas relever l'attention dont il était l'objet. Le gouverneur était tout pénétré de sa propre importance. Deux hommes, l'un à forte carrure et râblé, l'autre vêtu somptueusement, devaient être les autres capitaines pirates. Les yeux de l'homme râblé étaient rougis par les larmes. Son compagnon roux arborait une physionomie empreinte de gravité. Il savait donc que Kenith était mort. Les captifs jaméliens étaient alignés le long de la cloison, un groupe loqueteux et harassé. Certains paraissaient sur le point de s'effondrer. Yéma referma la porte derrière lui et leur accorda un instant pour retirer leurs capotes mouillées. Il indiqua d'un geste les sièges serrés autour de la table, tandis que lui-même restait debout. Le pirate costaud leur versa à tous de l'eau-de-vie. Brachen fut bien aise de goûter à l'alcool réconfortant. Il reconnut les petits verres. Ephron Vestrit les réservait pour les grandes occasions. Alta se hâta de s'asseoir à côté de lui. Elle se pencha et chuchota précipitamment. « Excellente nouvelle !» Quand Reyn et le dragon ont quitté Terrilville, ma mère, Kefria et Selden étaient tous là, et en bonne santé. Elle inspira. Hélas, ce sont les seules bonnes nouvelles. Ma famille est ruinée, ma maison a été saccagée, ainsi que nos propriétés. Aujourd'hui, plus que jamais, une vive nef. Je te dirai après. Se reprit-elle aussitôt en s'apercevant que toutes les conversations s'étaient tues autour de la table. Yéma respira et déclara d'une voix nette
« Je sais que vous n'êtes pas ravis d'avoir dû quitter vos navires. C'était nécessaire. La mort de Kenith nous a forcés à prendre un certain nombre de décisions. Je vais vous dire ce que j'ai décidé et je laisserai chacun de vous tracer sa route en conséquence. »
« Nous y voilà, » songea Brachen. « La prise de commandement, l'autorité. » Il s'attendit presque que quelqu'un la récuse, mais ils gardèrent tous le silence. Les capitaines pirates s'en étaient déjà remis à lui. Tout le monde attendait respectueusement. Seul le gouverneur, qui affichait un sourire satisfait,
laissait entendre qu'il savait déjà ce qui allait venir.
Yéma respira un bon coup.
Le traité que le roi Kenit et le grand seigneur gouverneur Magnadon Kosgo de Jamelia ont soigneusement forgé a été reconnu et ratifié par ses nobles.
Un silence stupéfait accueillit ces paroles. Le capitaine Rouge et Sorcor se dressèrent d'un bond en poussant des cris de triomphe.
Éta leva les yeux vers Yéma. « Tu as réussi ? » demanda-t-elle étonnée. « Tu as achevé ce qu'il nous avait promis ?»«
J'ai commencé, »
répondit-il tristement.
« Ma sœur Malta a largement contribué à les amener à cette sage décision, mais il reste beaucoup à faire. »
Sur un regard de Yéma, les deux capitaines se rassirent. La voix grave de Sorcor rompit le silence. Son ton trahissait une intense satisfaction.
« Quand vous m'avez dit que Kenit était mort, j'ai cru que nos rêves étaient morts avec lui. J'aurais dû avoir plus confiance, Yéma. Kenit ne s'est pas trompé en vous choisissant. »
Une ombre de sourire passa sur ses lèvres et il reprit avec gravité.
« Nous connaissons bien ces eaux. Nous avons semé la flottille jamélienne dans la nuit. Dès que Sorcor et Rouge auront regagné leur navire, je propose qu'ils se séparent, qu'ils fassent une boucle par les îles pour se rendre à partage. De là, qu'ils envoient des oiseaux afin de rassembler une flotte de pirates, puis qu'ils attendent tranquillement l'arrivée des autres navires.
« Et vous, commandant ?»
demanda Sorcor.
« J'irai avec vous, Sorcor, sur la Marietta. Ainsi qu'Éta et le grand seigneur gouverneur et nos prisonniers, nobles hôtes, »
se reprit-il tout uniment. Il leva la main pour prévenir les questions.
« Le gouverneur requiert notre protection et notre soutien. Nous masserons notre flotte à partage. Là, nous entreprendrons d'organiser son retour à Jamelia, où il pourra présenter aux nobles restés là-bas le traité signé qui l'allie au royaume des îles des pirates. Nos hôtes demeureront à partage, où ils seront bien soignés jusqu'à ce que nos prétentions soient reconnues. Maintenant, Éta... »
Il s'interrompit, puis se lança.
« La reine Éta, choisie par Kenit pour naviguer à ses côtés, et la mère de son fils à venir, nous accompagnera pour s'assurer de la reconnaissance effective des prétentions des îles des pirates. Elle règnera jusqu'à ce que son enfant soit en âge de monter sur le trône.
« Un enfant ? Vous portez son enfant ?»
Sorcor se leva d'un bond puis se jeta sur Éta pour l'embrasser à l'étouffer. Les larmes ruisselaient sur son visage sans qu'il songe à les retenir.
« Plus de jeu d'épée jusqu'à la naissance du bébé !»
conseilla-t-il en la tenant à bout de bras. Il prit un air vexé quand Rouge se mit à rire. Éta, elle, parut bouleversée puis étonnée. Quand Sorcor reprit son siège, il laissa sa grande main sur le poignet d'Éta comme pour la garder à proximité et la protéger.
« Kenit nous a laissé un fils, »
confirma Yéma lorsque le brouhaha se fut apaisé. Il croisa le regard d'Éta en ajoutant
« Un héritier qui règnera après lui quand il sera en âge. Mais jusque-là, il nous appartient de mettre à exécution les projets de Kenit et d'honorer sa parole. »
Brachen sentait Altea se crisper à chaque mention du nom du pirate. Elle considérait son neveu avec des yeux noirs. Sous la table, Brachen chercha sa main. Elle s'en saisit avec force.
Le gouverneur se leva brusquement. « Je tiendrai parole, »
annonça-t-il comme s'il leur faisait une surprise.
« Ces derniers jours, j'ai constaté par moi-même que les îles des pirates ont le droit de se gouverner seules. « Je dois compter sur votre soutien pour regagner mon trône, mais dès que je serai de retour à Jamelia... »«
Eh, qu'en est-il de Vivacia ? Pourquoi tout le monde doit embarquer sur la Marietta ?»
Sorcor ne parut pas s'apercevoir qu'il avait interrompu le grand seigneur Magnadon, gouverneur de Jamelia. Yéma reprit les choses en main avec aisance.
« Vivacia s'en va pour tenir une des promesses de Kenit. » Nous avons tous une dette envers les serpents. Ils sont partis vers le nord à la suite du dragon. Mais Vivacia affirme qu'ils auront besoin d'elle durant leur voyage. Elle sent qu'elle doit les suivre. De plus, Kenit le lui a promis.
Il marqua une pause et reprit avec une évidente difficulté.
« Je ne peux pas m'en aller avec elle. J'aimerais beaucoup car j'ai très envie de revoir ma famille, mais mon devoir me retient ici pour un certain temps encore. »
Il fixa enfin les yeux sur Althea.
« Je demande à Althea Vestrit d'emmener Vivacia vers le nord. » Iola s'est exprimée au nom de l'équipage. Les hommes la suivront, comme c'était la volonté du capitaine Kenith. Cependant, je te préviens, Althea. Vivacia a promis à Kenith que lorsque son devoir envers les serpents serait accompli, elle reviendrait. Et c'est aussi le vœu du navire. Guider les serpents jusqu'à leur pays. Apporter de nos nouvelles à Terrilville. Mais après quoi, vous devrez nous revenir toutes les deux.
Yémin leva la main pour arrêter Althea qui s'apprêtait à intervenir, et, chose étonnante, elle s'inclina et garda le silence. Il reporta les yeux sur Brashen qui le dévisageait, paralysé. Il s'était douté de ce qui allait venir, mais la réalité était pourtant comme un coup de massue. Yémin venait de lui reprendre Althea. Une fois de plus, le devoir envers sa famille et le navire l'appelait. Elle verrait se réaliser son rêve de commander Vivacia, elle rentrerait victorieuse à Terrilville, après quoi elle devrait rendre Vivacia à partage. Quitterait-elle alors son navire pour revenir vers lui? Il en doutait. Il lui serra la main, mais il comprit qu'elle était déjà partie. Il eut bien du mal à se concentrer sur les paroles de Yémin.
Parangon et vous êtes libres de faire ce que vous voulez, Brashen Trell. Mais je demande que Parangon accompagne Vivacia jusqu'au fleuve des pluies avec les serpents. Vivacia dit que deux vives-nefs les guideront et les protégeront mieux qu'une seule. Malta et Reyn souhaiteront sans doute faire le voyage avec vous.
Reyn déclara, à la surprise de tous,
« Nous aurons besoin de deux navires contre les Chalcédiens qui se dirigent là-bas. L'un pour protéger, l'autre pour combattre. »
Nous avons entendu des rumeurs,
reconnut Yémin avec consternation.
Mais ce n'était que des rumeurs.
Croyez-les, dit Reyn.
Il se retourna sur sa chaise pour s'adresser aux nobles jaméliens alignés le long de la cloison. Il les parcourut de son regard cuivré.
Alors qu'avec Tintaglia nous volions vers le sud, nous avons aperçu des vaisseaux chalcédiens flanqués de galères, ce qui, comme vous le savez, est leur formation tactique de guerre. J'ai idée que Jamelia constitue leur cible. Ils ont décidé, je crois, que le petit butin laissé à Terrilville ne valait pas de se battre contre un dragon.
Malta prit à son tour la parole.
Je remarque sur vos visages que vous doutez de nous. Mais j'ai assisté à leur première attaque sur Terrilville. Reyn, lui, était présent lors de la dernière. Vos conspirateurs chalcédiens n'ont vu aucune raison de vous attendre. Ils espéraient s'approprier le plus gros du butin avant votre arrivée. Je ne crois pas non plus qu'ils aient jamais eu l'intention de livrer Terrilville aux fils et frères des nouveaux marchands. Frustrés de la proie facile que vous leur aviez promise à Terrilville, chassés par Tintaglia, ils se dirigent vers le sud. Ce sont les alliés que vous vous êtes choisis. Votre gouverneur s'est montré plus avisé. Vous avez signé le traité sous la contrainte. Je puis lire dans vos cœurs. À la première occasion, vous vous dédirez. Ce serait insensé. Vous devriez encourager l'alliance de votre gouverneur avec les îles des pirates, car lorsque les vaisseaux et galères chalcédiennes arriveront, vous aurez besoin de tous les amis que vous pourrez mobiliser.
Elle les scruta un par un.
Souvenez-vous de ce que je dis. Ils sont sans pitié.
Il y avait à peine un an, Malta avait essayé ses ruses sur Brashen. À ces paroles, il comprit que son astuce de gamine avait mûri en authentique diplomatie. Plusieurs nobles échangèrent des regards impressionnés. Le gouverneur lui-même paraissait ravi, il approuvait de la tête comme si elle n'avait fait qu'exprimer tout haut ce qu'il pensait. Malta se plaqua les mains sur les oreilles avant que Reyn n'ait perçu le bruit. Quand il l'entendit enfin, il tressaillit comme elle. Les autres jetaient des regards affolés. Un seigneur jamélien gémit.
« Les serpents reviennent !»
Non, c'est Tintaglia,
répondit Rain. Il fut saisi d'angoisse. Le dragon appelait à l'aide. Il se dirigea vers la porte, tout le monde se leva et le suivit. Malta lui prit la main quand ils sortirent sur le pont. Ensemble, ils scrutèrent le ciel sous la pluie battante. Tintaglia les survolait, une pâle lueur d'argent et de bleu sur le ciel couvert. Elle battait lourdement des ailes. Elle vira en décrivant un large cercle, puis poussa un nouveau cri. À la stupéfaction de Rain, on lui répondit. La réaction de Vivacia fit vibrer le pont. Un appel plus grave, venu de Parangon, lui fit écho. Malta était figée, les yeux levés dans une crainte respectueuse. Le bruit mourut et elle regarda Rain d'un air interrogateur.
« Elle demande de l'aide ?»
Rain eut un petit grognement.
« Non, elle exige. Tintaglia demande rarement quelque chose. »
Il avait parlé avec dureté, mais il avait le cœur serré. Ils étaient devenus trop proches pour que le dragon puisse lui cacher sa peur. Il sentait à la fois sa fatigue et son profond chagrin.
« Je n'ai pas tout compris, » ajouta Malta. « C'est même stupéfiant que j'ai compris quelque chose. »
Rain répondit à voix basse. « Plus tu passes de temps dans son voisinage, plus elle te parle clairement en esprit. » Je crois que nos oreilles n'y sont pas pour grand-chose. Les vocalises du dragon ébranlèrent le ciel. Tout autour d'eux, les matelots se dévissaient le cou pour regarder l'animal ou couraient, tremblant, se mettre à l'abri. Rain leva les yeux sans se soucier de la pluie qui inondait son visage. Il parla à voix forte afin d'être entendu par-dessus les cris des navires.
« Le dragon est épuisé. Il vole trop vite et les serpents ne peuvent pas le suivre. » Il a dû tournoyer constamment afin de les attendre. Il n'a pas chassé, n'a pas mangé, car il a peur de quitter ses serpents. Un vaisseau chalcédien l'a attaqué. Il n'a pas été grièvement blessé, mais les serpents se sont retournés contre le navire.
Il reprit haleine.
Il savait comment on tue les serpents. Les archers en ont abattu 6 avant qu'il ne coule le vaisseau.
Le chagrin et l'indignation de la vive nef montèrent en eux.
« Le nœud se repose pour la nuit, mais le dragon est revenu et exige notre aide. »
Il se tourna d'un air suppliant vers les capitaines.
L'obscurité l'a surpris. Il a besoin d'atterrir sur une plage de sable ou quelque part, avec un feu qui le guidera.
Sorcor prit soudain la parole.
« La vase, ça irait. C'est glissant, mais moins dur que les rochers. »«
L'île puante, »
confirma Eta.
« Ce n'est pas loin d'ici, »
ajouta Rouge.
« Il la survole probablement chaque fois qu'il tourne. L'endroit ne convient pas pour un navire, les eaux sont trop peu profondes. »«
Mais on peut y amener un canot, »
fit Eta en écartant l'objection.
« Et il y a plein de bois flotté pour faire du feu. »«
Il faut y aller tout de suite. »
Rain leva un regard anxieux vers le ciel.
Si l'on ne se dépêche pas, l'océan va l'engloutir. Il est à bout de force.